Non, j'aime bien les journalistes. Mais je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en disant ça parce que je me souviens plus ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
Barbara, en noir et blanc, sur France Inter. Près de 10 ans ont passé depuis les débuts de Barbara à l'Écluse. 10 années pour apprendre le métier. Une décennie qui enfin porte fruit.
Une rose rouge pour Barbara, qui commence mercredi à Bobino, où elle passe en américaine du spectacle Brassens. Une rose pour elle, qui est d'ores et déjà, tout Paris le murmure, la révélation de la saison 64-65.
Barbara, qu'est-ce que ça représente pour vous, un passage à Bobino dans le même programme que Georges Brassens?
Oh, mais non, ça représente. Moi, je suis très, très heureuse de passer dans le programme de Georges Brassens. Je suis très heureuse aussi d'être accompagnée par Pierre Nicolas, Portal, par Baselli. Et puis, ça représente surtout l'idée d'agrandir un public, de pouvoir m'exprimer devant un public plus vaste.
Pour ce public de Bobino, pour ce public plus large, est-ce que vous faites des adaptations, je ne dis pas des concessions, des changements des...
Non, pas du tout. Je chante. Si, enfin, la seule différence qu'il y a entre mon tour, c'est que je ne vais chanter que des chansons à moi. Donc, mais voilà, enfin, ce sont les mêmes chansons que je chante ailleurs.
Mais c'est le répertoire de Barbara.
Oui, enfin, c'est la première fois que je ne chante que mes chansons. Alors, voilà.
Jean Grunebaum commence par nous donner la fichette sonore de l'émission. Quel gros titre, enfin, quelle manchette proposez-vous, Jean Grunebaum?
Qu'est-ce que vous voulez, en somme, un gros titre ou des manchettes? En tout cas, je propose pour les variétés la semaine des deux B, en raison de la rentrée parallèle de Brassens et de Brel. Mais à la réflexion, je crois que je dirais les 3 B. Car il y a aussi Barbara qui passe en américaine dans le spectacle de Bobino. Tiens, ça fait 4 B. Et Barbara, c'est la découverte, la révélation de la saison, indéniablement un des grands noms du musical Nouvelle Manière que nous voyons apparaître depuis quelques années déjà.
Quitte de moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Oh, dites-le-moi doucement. Murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles en été un jour au soleil, au soleil.
Le chanteur Serge Lama.
Pourquoi Barbara a réussi, en dehors du fait qu'elle a du talent et que c'était inéluctable qu'un jour ou l'autre elle réussisse, parce que le talent finit par payer, et Dieu sait qu'elle s'est battue des années et des années, elle a réussi finalement assez tard. Il y a eu une grosse polémique sur 2 ou 3 chansons de Brassens, sur la guerre de 14 et sur la guerre en général, et où beaucoup de gens, de journaux, de gauche, de politique, ont pris un peu Brassens, au collet, en grippe. Il y a eu des manifestations d'anciens combattants. Et Barbara, c'est bien sûr son talent qui a fait la différence, mais elle a également bénéficié de cette polémique autour de Brassens qui fait que tous les articles sont devenus majeurs sur Barbara et on ne parlait que de Barbara. Et là, d'un seul coup, en un jour, comme toujours, en une semaine, en 3 semaines, elle est passée d'un côté de la barrière à l'autre côté de la barrière. Elle est passée de chanteuse de cabaret à chanteuse tout court, à chanteuse nationale. Et elle est devenue la Barbara que nous connaissons tous.
Barbara à l'émission Avant-première.
Barbara, il s'est produit récemment de gros changements dans votre existence.
Oui. Enfin, oui.
Disons dans votre carrière.
Oui, disons, j'aime mieux dire dans ma vie de femme qui chante, parce que ma carrière, c'est
votre,
rien.
Votre vie de femme qui chante?
Oui.
Ah, c'est intéressant.
C'est plus juste.
Bon, alors je reprends ma question. Il s'est produit le gros événement dans votre vie de femme qui chante. Oui. Comment avez-vous pris ça?
Ah ben d'abord, j'ai pris ça comme une joie très lourde à porter, c'est-à-dire que est presque aussi douloureuse qu'un chagrin brutal. Et puis maintenant, je suis émerveillée et puis heureuse parce qu'enfin je chante et c'est ça m'était nécessaire comme de respirer.
Est-ce que c'est difficile le succès quand on le reçoit comme ça?
Oui, je crois que c'est. Bon, ce qui est difficile, c'est pas de chanter, ça c'est merveilleux. Ce qui est difficile, c'est tout ce qu'il y a autour. Ce n'est pas seulement le succès, mais c'est tout ce que ça comprend et qu'on peut difficilement expliquer, enfin, comme ça. Mais enfin, il y a une loi des compensations. Moi, je trouve que, de toute manière, ce privilège-là, il faut le payer d'une manière ou d'une autre. Et s'il faut le payer par le fait de supporter un succès, c'est encore une très jolie dette.
Enfin, oui. Mais enfin, on le paie toujours un peu par sa chair, on le paie toujours un peu par sa vie, par ses nerfs.
Oui,
par...
mais enfin, c'est normal. Et puis, enfin, je suis pas là pour parler de ça. Moi, c'est tout le monde. Ça, c'est comme ça. Quoique le monsieur qui fait des croissants, il paye pas de sa fatigue et de tous les jours et aussi de ses nerfs le jour où il rate les croissants. Et ça, je crois que ce soit. Non, enfin, ça.
Bien sûr. Et sur le plan du travail?
Sur le plan du travail.
Est-ce que ça gêne ou est-ce que ça aide? Est-ce que ça stimule ou est-ce que ça retient?
Ah, c'est merveilleux. Non, la seule chose qui est, mais enfin, moi, ça me gêne pas parce que ça fait que j'ai pas la folie d'écrire, c'est que pour l'instant, comme je chante, je peux pas faire mes zinzelles. Hein, j'ai du mal à faire les deux à la fois. Mais c'est formidable parce que je suis partie en tournée, en fait, tout ça. J'ai l'impression d'en faire. Vous comprenez, je suis allée les trancher. Moi, quand je vais à Marseille, je vais au bout du monde. J'étais jamais allée chanter. Alors, c'est merveilleux, c'est cette rencontre que j'ai eue. Le public, le vrai public.
Oui, parce que vous ne faites pas des chansons, vous faites des zinzins.
Oui, je fais des zinzins, oui.
À peine un an après son passage à Bobino avec Brassens, Barbara veut renouveler l'expérience. L'humoriste, Guy Bedos.
Nous étions, Barbara et moi, déjà très connus au cabaret. Et c'était déjà une sorte d'icône de Saint-Germain-des-Prés. Et elle m'a téléphoné, alors qu'on se connaissait peu. On se croisait à Saint-Germain-des-Prés, dans les restaurants, tout ça. Je savais très bien qui elle était. Je l'admirais beaucoup de loin. Et apparemment, elle ne me détestait pas non plus. Elle m'a appelé, je me souviens, un été, je ne revenais pas. En me demandant si je voulais être sa co-vedette. Bon, bah oui. Et donc, nous sommes passés en septembre. Elle en a fait d'ailleurs une chanson, c'était un soir de septembre. Vous étiez venu m'entendre, vous en souvenez-vous? Et elle me l'a chanté longtemps après pour moi, me l'a offert dans une salle. J'étais en larmes. Et j'adorais cette fille. Et dans la vie, on avait un rapport extrêmement amusant, parfois un peu ambigu. Elle me laissait entendre que je ne lui déplaisais pas.
La chanteuse Diane Dufresne.
J'ai eu la chance et le privilège, je crois, parce que ça fait très longtemps, d'être là à Bobino le soir où elle a chanté la première fois ma plus belle histoire d'amour. On était totalement bouleversés. Je ne sais pas encore. C'est pour ça que j'ai les yeux larmoyants. Très souvent, moi, quand je finis un spectacle, j'ai pas envie de parler du public pour ne pas parler de l'émotion que j'ai reçue par respect. Et Barbara, elle était comme tout le contraire. Elle a fait une chanson d'amour pour le public. Je trouvais ça fantastique. Elle était unique sur scène. C'est ça qui m'émeut tant. Sa plus grande histoire d'amour, c'était le public. Et elle a donné sa vie, en fait, au public. Et ça me touche énormément.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, là j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous? Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leurs portes. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
France Inter, bien des années plus tard, à l'émission Quotidien Pluriel, Barbara se souvient.
Alors il y a d'autres chansons que vous avez su écrire et il y en a certaines qui sont vraiment presque des chants d'amour au public.
Oui.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est
ce ah ben
que
c'est
vous
ça,
avez écrit, oui. C'est ce, oui, oui, ce c'est qu'on ça. A pu dire au public. Oui. Là, tout y est.
Ma plus belle histoire d'amour, ça s'est passé à Bobino, après mon Bobino avec Bedos. Bonjour Bedos. Et ça s'est passé...
c'était Bedos, vous l'aimez bien.
Ah oui, j'aime beaucoup, parce que je trouve mon talent, c'est important que des gens comme ça existent, de même que j'aime Coluche, c'est important, ces gens-là sont très importants et que c'est vrai qu'il manque Coluche, quoi. Hein, ça, il manque. Bon. Qu'est-ce que je vous disais?
Vous me parliez de Bedos.
Je parlais de Bedos, oui. Et donc, ça avait été un accueil tellement incroyable que je suis rentrée et que j'ai. C'est complètement pour le public que j'ai écrit ça, ma publication d'abord sur vous. Et aujourd'hui, je pourrais la réécrire et je pense que jusqu'à la dernière minute où je chanterai, ça restera ça.
Guy Bedos.
Elle avait qu'un défaut. C'est que, pour moi, en tout cas, c'est que. Elle venait s'asseoir en coulisses. À jardin, comme on dit, à droite. Et elle venait me regarder. Et elle m'aimait beaucoup. Mais ne riait pas du tout. Il y avait la salle qui s'esclaffait. Et elle me regardait. C'était l'aigle noir qui me surveillait, en quelque sorte. Et moi, j'ai explosé. En coulisses, je lui ai dit, écoute, je t'adore, mais vraiment... ça me gêne, tu ne ris pas, ça me plombe un peu, c'est décourageant. Il m'a dit, mais je t'adore, mais tu me fais tellement rire, mais là, tu comprends, je suis venu respirer mon public, c'est notre public, c'est le public qui va venir, tu comprends, alors je me pénètre de lui, et donc c'est pas toi, c'est pas ta faute. Je lui ai dit, oui, mais alors, si tu peux ne pas venir t'asseoir en coulisses, je veux pas te voir, parce que toi, tu fait coudre les rideaux pour pas voir les pompiers, pour pas être dérangé par des intrusions abusives. Donc, par pitié, je t'adore, mais tu me fais peur quand t'es là, tout en noir, en train de me regarder, tu me fais peur. Je suis pas sûr que tout le monde sache qu'elle était drôle, rieuse, déconneuse, comme on dit maintenant. Elle adorait partir en vrille et balancer n'importe quoi pour rire.
Écoutez, oui, justement, hier soir il m'est arrivé quelque chose de désagréable, c'est que j'ai eu un trou de mémoire en scène pour une chanson que je venais de finir et que j'avais envie de chanter. Alors il y a deux solutions, si je la retire ce soir, c'est lâche et c'est ridicule, ça veut rien dire, et si je la chante, je vais avoir un autre trou de mémoire et alors je ne peux pas tous les soirs comme ça. Alors voilà, je vais vous la chanter, mais au lieu de faire ce que j'ai fait hier soir, je vais vous la chanter carrément tout de suite avec mes lunettes, c'est vrai, si vous permettez, comme ça il n'y aura pas de problème, enfin j'espère. Alors, je m'organise parce qu'on m'a mis des pages, on m'a écrit très gros parce que je suis très myope. Très, très myope. Voilà. Ça, évidemment, j'avais pas besoin du papier pour ça. M'ont tous connu avant, ils s'en rappellent. Autant de loup et du pain noir, sans mirabelle, ils ont tous partagé leurs tartines beurrées. Ont couché dans leur lit mes longues insomnies. Et moi j'ai beau chercher, en vain j'appelle mes souvenirs du temps passé, mes infidèles. Je n'ai pas souvenir, du moindre souvenir, du paysage, de leur visage. Ils étaient beaucoup moins nombreux, je m'en rappelle. Autant de l'eau et du pain noir, sans mirabelle, ils ne me devaient rien, qu'ils ne regrettent rien, mais qu'ils ne viennent pas raconter qu'autrefois, ils m'ont, souvenez-vous, bercé sur leurs genoux, les rats passent.
Au milieu des années 60, les rencontres importantes se succèdent. Un jour, la jeune Marie Schex, qui n'a croisé Barbara que deux fois, reçoit un appel pour le moins étonnant.
Allô, bonjour, c'est Barbara la chanteuse, parce qu'elle s'annonçait toujours comme ça. Mais même à la fin de sa vie, elle annonce comme si on ne savait pas qui c'était. Bon, c'est Barbara la chanteuse. Et je, bonjour madame, et elle me dit, voilà, j'ai absolument besoin d'une secrétaire, donc j'ai décidé que ce serait vous. Alors quand est-ce que vous pouvez commencer? La semaine prochaine? J'ai bafouillé, j'ai dit, mais écoutez... moi, j'ai un travail, je ne peux pas partir comme ça. Mais je vous offrirai... combien vous gagnez? Je dis, écoutez, je ne peux pas parler de ça ici. Je vous donne le double. Ça a commencé comme ça. Elle n'a fait aucune idée de rien. Enfin, je veux dire, on va se revoir. Et alors, évidemment, quand on s'est revus, moi, je n'ai pas pu résister. C'était comme une espèce de... une offre. Je ne me suis même pas dit, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je devrais refuser? Donc, c'était vraiment l'inconnu. Mais j'avais 24 ans, alors, hein.
À peu près à la même époque, Barbara fait la connaissance d'un homme qui jouera un grand rôle dans sa vie. Son agent, Charles Marouani.
La première fois que j'ai rencontré, c'est à la demande de Jacques Brel et de François Robert, son arrangeur, qui m'a dit qu'il faut donner un coup de main à cette chanteuse parce qu'elle en a besoin. Elle commençait à bien travailler, mais elle était effectivement criblée de dettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle avait un train de vie magnifique. C'était un peu... la folie russe de son origine lointaine. Donc elle avait deux secrétaires, trois voitures, elle ne conduisait pas, des musiciens qu'elle payait l'année, même quand elle ne travaillait pas. Bon, elle vivait largement, mais les impôts, on oubliait de les payer. Alors quand j'ai voulu m'occuper d'elle, j'ai accepté, enfin très volontiers, j'admirais l'artiste déjà, de m'occuper d'elle, j'ai dit oui, à condition, il n'y a plus de carnet de chèques, il n'y a plus de carte de crédit. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Au bout de, je sais pas, quelques années, on a réussi à éponger la dette vis-à-vis du fisc, qui était quand même, à l'époque, 1 600 000 francs. C'était énorme, énorme, énorme. Vous imaginez ça en 65, 66, 67, par là. C'est une somme colossale. J'ai dit, on va commencer par payer les impôts pour être saisie. Elle n'avait rien à elle, à part les voitures. Le reste, elle n'avait pas d'appartement. Elle louait. Hein. Et au bout de quelques années, on a réussi à éponger la dette et à lui faire mettre un peu d'argent de côté pour qu'elle puisse vivre décemment de son talent. Et ce qui était amusant, c'est que lorsqu'elle partait en tournée, j'ai pris un accord avec les tourneurs qui faisaient la tournée, les producteurs, en disant, vous donnez 500 francs d'argent en poche à Barbara, point final. Tout le reste, vous le verrez sur son compte. Et c'est grâce à ça qu'on a pu éponger la dette. Mais même si 500 francs qui lui restaient, elle était tellement contente, elle trouvait que c'était trop presque. Elle le donnait à des fans quand elle les voyait attendre la sortie du théâtre le soir en hiver. Allez vite acheter une écharpe, vous allez attraper froid. Et voilà, ça c'était Barbara. C'est magnifique.
Marie Schex découvre l'univers de la chanteuse de minuit. Elle ne sait pas encore que dans son enfance, Barbara a été victime d'inceste.
Je trouvais ça bizarre, son rapport avec sa mère, parce que elle, donc c'était rue Rémusat, là où elle habitait. Sa mère habitait un petit appartement tout petit, ou même une chambre dans le même immeuble. Et donc, elle s'occupait entièrement de sa mère. Mais elle s'en occupait comme on s'occupe d'un enfant. Elle était complètement toujours inquiète d'elle. Elle lui envoyait des cadeaux, des fleurs. Elle l'envoyait en vacances à Nice. Elle lui payait tout. Mais en même temps, elle avait un rapport avec sa mère qui était très tendu. C'était bizarre, c'est ça. Enfin, après, j'ai compris que sa mère l'avait pas aidée hein, dans ces années-là. C'était, mais que elle, comment dire, elle lui pardonnait, et comme si elle avait pu pardonner à sa mère en lui faisant des cadeaux. C'était très curieux. C'était pas à elle d'être coupable, c'était à sa mère. Mais sa mère était assez, c'était une femme bien, mais assez légère, je veux dire, elle était assez... elle comprenait rien, pour tout dire. Elle était charmante, elle était ravie que sa fille ait du succès, mais elle... je crois qu'elle a jamais rien compris, quoi.
France Inter. Et c'est au tour de Serge Reggiani d'entrer dans la vie de Barbara.
Serge Reggiani, dans votre vie, une rencontre importante, c'est celle de Barbara.
Eh bien, Barbara m'a vu chantonner... deux chansons de Boris Vian, que j'ai loupées naturellement, et qui m'a dit en coulisses, venez chez moi, elle habitait à l'époque rue Rémusat, je voudrais vous apprendre à respirer et à placer votre voix sans trop vous fatiguer. Alors j'y suis allé, et puis en 4-5 jours, j'ai fait des progrès.
Karine, la fille de Serge Reggiani.
C'était le week-end, c'était le dimanche que mon père allait travailler chez Barbara et il m'emmenait. Elle était à son grand piano noir, elle-même toute noire, mon père debout comme un petit élève. Et hop, on y va et il travaillait toutes ses chansons. C'était pas un prof, hein, c'était plus un metteur en scène. Donc elle le dirigeait, elle essayait de lui en faire un peu moins. Il avait tendance à rouler les airs, à chanter un peu d'une façon française et vieillotte. Et donc, elle essayait de lui faire tendre vers la simplicité. Voilà.
Barbara m'a dit, j'ai un récital à faire à la mutualité pour les étudiants. Je voudrais que vous fassiez la première partie. Oh là là. La terreur. Je l'ai faite et... Barbara a fait donc la seconde partie, mais elle était dans un état, disons, négatif, et elle a loupé sa deuxième partie. Elle est sortie en disant, j'ai loupé ma deuxième partie, c'est impardonnable.
Elle vous a emmené avec elle ensuite, parce que vous avez fait Bobino, hein,
oui,
Barbara.
Oui.
Barbara. On ne sait pas où la classer dans la chanson moderne. L'an dernier, d'un seul coup, elle est devenue vedette, comme une plante incongrue qui a poussé au milieu des yéyés et des rythmes. Une vedette, peut-être, un personnage sûrement. Elle a fait sa rentrée hier à Paris. En ce moment, elle répète. Il est 11h du soir à Bobino, nous sommes lundi.
Oh mon Isabelle.
Marie Schex n'a pas oublié ce spectacle de Barbara et de Serge Reggiani.
Bon, ils ont eu une rencontre amicale. Écoutez, je ne sais pas. Il faudrait consulter les potins pour savoir ce qui s'est passé exactement. Mais ils ont eu une rencontre amicale. Ils ont eu une aventure amoureuse qui n'a pas duré très longtemps, à mon avis. Parce que, bon, c'était un peu compliqué par la suite. Faire des tournées avec quelqu'un qui n'est plus votre chérie, c'est un peu dur. Mais... ça s'est très bien fait. Ils étaient quand même de très... Lui était un homme extrêmement... il était très, très bien, et elle aussi, ils se sont très bien conduits. Bon, alors, ce qui a été extraordinaire quand même, c'est qu'elle l'a révélé comme chanteur. Elle l'a fait chanter à Bobino en première partie, il faisait un malheur. Elle était très contente, mais c'était presque un peu inquiétant par rapport à elle. C'est-à-dire qu'elle n'était plus une découverte. C'est-à-dire que ça a été dur surtout dans la presse. Les journalistes découvraient Reggiani. Alors c'était, Reggiani, bon, Barbara, on en a parlé un peu moins. Alors elle n'a jamais fait de réflexion directe, mais je sais que ça lui avait quand même... elle a peut-être dû se dire, j'aurais peut-être mieux fait de l'envoyer en Italie. Ce qu'elle a fait avec lui, puisqu'elle a fait une tournée en Italie ensuite.
Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lance, mais m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Y a d'autres jardins pour parler d'amour. Y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs. Pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite ballon à la gare de Lyon.
Marie Chex.
De Milan, on a fait plusieurs villes autour, dont Turin. Et ça se passe le 6 novembre 1967. Et je dois dire, ce jour-là, tout se passait bien. Il y avait un piano, il était bien accordé. On était dans les coulisses. Quelqu'un est venu me chercher dans la loge en me disant, on vous demande au téléphone. Alors j'y vais, je vais dans le bureau. Et là, c'est... une personne qui travaillait avec nous à l'époque aussi, que c'est Jeannine Rose, et c'est Jeannine qui me dit, mais écoute, c'est terrible ce qui arrive, je ne sais pas comment te le dire, mais la mère de Barbara est morte. Et là, je dois dire que c'était un des pires moments que j'ai passé dans ma vie. J'avais l'estomac vraiment noué, et je me suis dit, c'est impossible de lui dire maintenant. Si on lui dit maintenant, ça veut dire qu'elle va quand même chanter, parce que je la connaissais, elle aurait chanté. Mais ça aurait été vraiment, alors là, Sarah Bernard, enfin je veux dire, ça aurait été terrible. Alors j'ai décidé, en prévenant les autres, et en prévenant les musiciens, et en prévenant notre chauffeur Pierre, ils ont tous dit d'ailleurs, il ne faut pas lui dire. Alors ça voulait, oui, donc il fallait faire semblant et faire en sorte que tout aille bien. Et tout s'est très très bien passé. À la sortie du théâtre, c'est terrible parce qu'à la sortie du théâtre, il y a des journalistes qui commencent à répliquer, à la photographier, et heureusement, elle ne comprenait pas l'italien. Pourtant, ce n'est pas compliqué de comprendre à ce moment-là la maman, mais ils étaient au courant. Ils venaient lui demander ce que ça lui faisait d'avoir perdu sa mère, quoi. C'est terrible. Alors, et on l'a poussée dans la voiture, elle s'est rendue compte de rien. Et puis je lui ai dit, quand on était dans sa chambre, je suis venu avec elle dans sa chambre, je lui ai dit, écoute, voilà, il y a une mauvaise nouvelle. Bon, elle a tout de suite compris. Et bon, bah, c'était pas drôle. Mais elle était dans un état épouvantable. Mais bon. Et ça ne faisait que commencer.
Le
Le décès du père de Barbara avait inspiré une chanson au nom de ville. La mort de sa mère, elle, aura droit à un nom de rue.
Vous ne m'avez pas quitté le jour où vous êtes parti. Vous êtes à mes côtés depuis que vous êtes parti. Et pas un jour ne se passe, pas une heure en vérité, au fil du temps qui passe, où vous n'êtes à mes côtés. Moi j'ai quitté Rémusat depuis que vous êtes parti. C'était triste Rémusat depuis que vous n'étiez plus là. Et j'ai repris ma valise, mes lunettes et mes chansons. Et j'ai refermé la porte en murmurant votre nom. Sans bottines, sans pèlerine, mais avec un chagrin d'enfant. Je suis restée orpheline, que c'est bête, à 40 ans. C'est drôle, jamais l'on ne pense qu'au-dessus de 18 ans, on peut être une orpheline en étant plus une enfant. Où êtes-vous, ma nomade? Où êtes-vous à présent? Avec votre âme nomade, vous voyagez dans le temps. Et lorsque les saisons passent, connaissez-vous le printemps? Vous qui aimiez tant la grâce des lilas mauves et blancs, que vos étés se fleurissent dans votre pays là-bas, aux senteurs odorantes d'une fleur de mimosa. Que vos hivers se réchauffent au coin d'une cheminée, que les saisons vous soient douces, vous avez tant mérité. Vous disiez pas une larme le jour où je n'y serai plus. Et c'est pour ça que je chante, pour ça que je continue. Pourtant quand je me fais lourde, oh que j'aimerais poser mon chagrin à votre épaule et ma tête sur vos genoux. Vous ne m'avez pas quitté depuis que vous êtes parti. Vous m'avez fait orpheline depuis que vous êtes parti. Et je suis une orpheline depuis que vous m'avez quitté.
France Inter. L'habilleuse de Barbara, Mine Vergès.
C'est Régine qui me l'a présentée. J'étais très jeune et Régine, c'est la première vedette que j'ai habillée. Et tout d'un coup, je suis chez Régine, ça sonne, Régine me dit « va ouvrir », je suis « ouais, c'est Barbara ». Et Barbara lui dit « je t'ai vu hier à la télé, tu avais une belle robe ». Régine lui dit « c'est Mine qui me l'a fait ». Et Barbara se retourne vers moi et me dit « je tiens à vous dire que vous avez beaucoup de talent, madame ». Oh, je dis « merci, vous n'allez pas me remercier si je vous le dis, c'est comme ça, c'est que c'est vrai ». Moi, je me suis dit, elle ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis rentrée chez moi, elle au téléphone, je veux vous voir, je veux m'habiller. Elle dit, non, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas, j'ai trop de travail. Ce qui était vrai, j'avais beaucoup de travail. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Elle m'a rappelé à moi après. J'ai refusé. Et là, tout le monde m'a dit autour de moi, tout le monde m'a dit, mais ce n'est pas possible que tu refuses d'habiller Barbara, ce n'est pas possible. Oui, mais cette femme, elle me fait peur. Oh là là, non, elle ne me plaît pas du tout, du tout. Bon, je dis, bon, si elle rappelle, je l'habille. Elle a rappelé. Et je suis partie chez elle. Elle habitait rue Rémusat. Et moi, j'habitais rue Rochechouart à l'époque. Et vous savez, quand on parle fort et on se fait les questions, les réponses, on se parle toute seule. Et moi, j'ai dit, moi, de toute manière, si elle m'énerve, je m'en vais, c'est fini. Et j'arrive au Rémusat, et c'est le beau Roland magnifique, adorable, qui m'ouvre, et qui me dit, Barbara n'est pas là, elle est allée déjeuner. Bon, ça commence à m'énerver. Et puis, je me dis, bon, si à la demi, elle n'est pas là, je m'en vais. Mais tiens, je m'en vais. Bref, elle est arrivée, avant 2h30, en parle, donc je vais vous dire ce que j'aime, me dit-elle, j'aime le noir, j'ai dit moi aussi, je suis toujours en noir, j'aime là, je vais vous montrer ma gueule, je vais vous montrer ce que j'aime. Elle monte, et tout d'un coup, j'ai dit, oh, cette robe, elle est jolie, une robe de ville, j'ai dit, tenez, je vous la donne. J'ai dit, non, je la veux pas, mais je vous la donne. Puis, bon. Puis on s'assit autour d'une table, on prend un café, et bon, j'étais un peu troublée quand même. Elle avait une très jolie bague, j'ai dit, elle est belle, votre bague. Tenez, je vous la donne. Non, mais non. Je suis partie, elle me dit combien je vous dois. Mais j'ai dit, je n'ai rien fait. Non, je vais vous donner. Je suis partie avec de l'argent. Je suis arrivée chez moi ce soir. J'ai dit, cette femme est folle, mais elle est magnifique. Elle est... Et voilà, ça c'était Barbara.
Une chanson écrite par le complice de toujours, Georges Moustaki.
Elle m'a dit, écris-moi une chanson, viens à la maison. Alors il y a une chose qui est drôle que je raconte quand on parle de Barbara. Elle avait un téléviseur et moi pas. Alors quand j'allais là-bas et que le téléviseur était allumé, je regardais que le téléviseur, j'écrivais rien, je parlais pas et je finissais par m'endormir parce que c'était hypnotique. Alors un jour j'arrive et elle me dit, écoute, tu vas me... On va travailler aujourd'hui, sinon je... pas de télévision, menace. Alors j'ai dit, bon, je vais vite te faire une chanson pour regarder la télévision. Et ça c'est vrai, ça a l'air d'être une scène de cinéma. Alors j'ai dit, bon, je vais t'écrire une chanson. Et j'ai pris un papier, un crayon, j'ai écrit pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune, parce que ça rimait, quoi. C'était pour me débarrasser d'elle. Et puis je suis arrivé au bout de la chanson, et j'ai dit, voilà, je t'écris la chanson, et j'ai pris la guitare que je laissais chez elle. J'ai improvisé un air qui est resté, on n'a pas changé une note. Elle s'est mise au piano, elle a répondu, on a fait un duo, on était tellement heureux de ça, qu'on a décidé de la chanter ensemble. Alors elle me traînait dans toutes les télévisions, sur toutes les scènes. Puis je fais partie même de son spectacle après.
Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune. Quelques couplets, si jamais elle entend un jour, elle saura que c'est une chanson d'amour. Elle et moi.
Je suis la longue dame brune que tu attends. Je suis la longue dame brune et je t'entends. Chante encore au clair de la lune. Je viens vers toi. Ta guitare de fortune guide mes pas.
Pierrot m'avait prêté sa plume. Ce matin-là, à ma guitare de fortune, j'ai pris le la, je me suis pris pour un poète, en écrivant les mots qui passaient par ma tête, comme le vent.
Pierrot t'avait prêté sa plume, cette nuit-là, à ta guitare de fortune. Tu pris le la et je t'ai pris pour un poète en écoutant les mots qui passaient par ta tête comme le vent.
J'ai habillé la dame brune dans mes pensées d'un morceau de voile de brume et de rosée. J'ai fait son lit contre ma peau pour qu'elle soit bien, bien à l'abri et bien au chaud entre mes mains.
Habillée d'un voile de brume et de rosée, je suis la longue dame brune de ta pensée. Chante encore au clair de la lune, je viens vers toi à travers les monts et les dunes. J'entends ta voix.
Pour une longue dame brune, j'ai inventé une chanson au clair de la lune. Quelques couplets, je sais qu'elle viendra un jour. Qui sait demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien.
Bonjour, je suis la dame brune.
j'ai tant marché à travers les monts et les dunes. Je t'ai trouvé, fais-moi place au creux de ton lit. Je serai bien, bien au chaud, bien à l'abri contre tes reins.
Si Barbara a le cœur sur la main, elle peut aussi facilement se froisser avec ses amis. Le chanteur Jean-Jacques Debout.
Mais vous savez, c'était une femme de caractère, Barbara. Il y a eu Serge Reggiani, avec qui elle s'est aussi brouillée, si vous avez bonne mémoire. Et elle m'a dit, je me suis fâchée avec Reggiani, je ne le reverrai plus jamais. Alors vous voyez comment elle était, elle a aimé Reggiani. Et après, il ne fallait plus lui parler de Reggiani, c'était terminé. C'est le même, je me souviens qu'elle avait un secrétaire, un jour il a parlé de Reggiani. Elle lui a dit, la porte, tout de suite la porte, je ne veux plus entendre parler de cet homme.
Est-ce que c'est une légende urbaine où il est vrai que la chanson Madame Nostalgie, écrite par Moustaki, chantée par Reggiani, c'est en fait un pied de nez à Barbara?
Paraît-il. Oui, oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit.
France Inter, Jean-François Fontana.
C'est vrai que c'est assez troublant, que les paroles de cette chanson semblent, à plusieurs reprises, et même on peut dire quasiment toute la chanson, renvoyer, y compris dans les détails, à la personnalité de Barbara, à sa façon d'être, de parler, voire à certaines de ses chansons. Ça a toujours été une interrogation, et Georges Moustaki a au moins une fois en ma présence répondu à cette interrogation. C'était à l'automne 1998, au Centre de la Chanson, et quelqu'un dans la salle lui a posé cette question du sens de Madame Nostalgie, et Georges Moustaki a confirmé, très précisément, effectivement, il a confirmé que Madame Nostalgie, c'était... Oui, au moins en grande partie, Barbara, et que oui, il y a des renvois très précis tu pleures sur un nom de ville, tes dentelles rouge et noir, je crois, je n'ai plus cœur de partager tes insomnies. Effectivement, il y a des références très très claires et très précises à Barbara. La question qu'on pourrait se poser quand même, c'est, cette chanson n'est pas à la gloire de Madame Nostalgie, ça ressemble même à une charge. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette chanson n'a pas fâché Barbara à l'égard de Georges Moustaki. Il est vrai que cette chanson n'était pas chantée par Moustaki, qui en est l'auteur, elle était chantée par Serge Reggiani. En revanche, oui, il est exact qu'à cette époque-là, en 1968, Barbara et Serge Reggiani étaient définitivement fâchés. Mais ils ne se sont pas fâchés à cause de cette chanson.
Madame Nostalgie, depuis le temps que tu radotes et que tu vas de porte en porte répandre ta mélancolie. Madame Nostalgie, avec tes yeux noyés de brume et tes rancœurs et tes rancunes et tes douceâtres litanies. Madame Nostalgie, tu causes de la fragilité des roses. Je n'entends plus ce que tu dis. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable ton mal d'amour si mal guéri. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Madame Nostalgie, tu rêves, mais tes arbres n'ont plus de sève et tes branches n'ont plus de fruits. Madame Nostalgie, pardonne-moi si j'en ai marre de tes dentelles grises et noires, il fait trop triste par ici. Madame Nostalgie, je veux entendre des orages, respirer des jardins sauvages, boire le soleil et la pluie. Madame Nostalgie, tu pleures, mais ce soir je n'ai plus le cœur de partager tes insomnies. Madame, j'ai envie ce soir d'être infidèle dans les bras d'une belle qui ressemble à la vie.
À la fin des années 60, Barbara a beau faire les belles heures de Bobino, l'Olympia continue de bouder la longue dame brune. Ses chansons ne tournent pas non plus sur Europe 1, dirigée à l'époque par Lucien Maurice. Marie Chex.
Donc on arrive à Europe numéro 1 sur le trottoir. Ça, j'oublierai jamais, c'est une vision que j'ai comme ça. Et on arrive et elle demande « Je voudrais parler à Monsieur Lucien Maurice, s'il vous plaît. » Justement, il est là, il est dehors. Et elle va vers lui, elle se plante devant lui et lui dit « Monsieur Lucien Maurice, enchanté de vous rencontrer. Je voudrais bien connaître la raison pour laquelle je suis sur la liste rouge. » Alors Lucien Maurice a ri tout de suite. Il a beaucoup ri et il lui a dit « Mais chère Barbara, je vous promets que ça ne se produira plus. » Et puis, il y a eu une séduction entre les deux. C'est-à-dire qu'elle est complètement tombée amoureuse de ce petit bonhomme. C'était un petit homme chétif, avec des cheveux roux, comme il ressemblait à un petit lapin. C'est vrai, il était adorable quand on le voyait. Mais enfin, vous savez, elle le prenait sous son bras. C'était comme un enfant, quoi. Et ils ont eu une passion, mais absolument, je pense une passion en tout bien, tout honneur. Mais ils avaient une passion d'amitié extraordinaire. Mais c'est vrai qu'elle avait raison, parce qu'elle était sur la liste rouge. On la passait jamais sur Europe. Et parce que c'est pareil, elle faisait pas partie des grands de la chanson. Il a fallu qu'elle fasse ses preuves à ces gens-là. Alors ça, elle en avait quand même gros sur la patate.
La rancune de la chanteuse de la rive gauche, Charlie Marouani.
C'est exact. Elle n'a jamais voulu passer à l'Olympia, parce que quelqu'un avait dit elle ne fera jamais une carrière. Bon. Et à ce moment-là, Lucien Maurice, qui était patron d'Europe numéro 1, me dit « On va faire un musicorama spécial à Barbara ». J'ai lutté assez longtemps, elle ne voulait pas. Et puis un jour, je l'ai décidé, elle me dit « À condition que je ne vois personne dans les coulisses ». Alors on a fait ce musicorama qui était exceptionnel, c'est magnifique. Et la personne qui avait dit qu'il ne réussirait jamais est venue la saluer. Donc ça a été la réconciliation. Et après, elle a fait 2 ou 3 Olympias qui étaient étonnants. C'est magnifique.
Et puisqu'on le voit dans plusieurs biographies qui sont consacrées à Barbara, c'est pas un secret, c'est Bruno Cocatrix qui avait dit « Elle ne passera jamais la scène », c'est ça?
Oui, si vous le dites, c'est que c'est vrai. Mais qui ne se trompe pas dans la vie, hein? Tout le monde peut se tromper. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés dans ce métier, qui ont prédit une catastrophe à Jacques Brel, qui ont dit que Barbara ne marcherait jamais, etc., etc. Ça n'empêche personne. Quand il y a le talent, c'est le talent qui prime.
Dans sa loge, personne ne peut déranger Barbara. Marie Chex.
Alors si par exemple quelqu'un se pointait une heure avant le spectacle pour dire, avec des fleurs, pour dire « Madame Barbara », alors là, c'est, même si c'était le directeur du théâtre, elle a foutu, excusez-moi mon langage, mais elle a quand même foutu Bruno Cocatrix à la porte de sa loge quand il lui apportait des fleurs à l'entracte. Dans son premier récital, dans le Musicorama, le premier récital qu'elle a fait à l'Olympia, elle l'a fichu dehors. Elle lui a dit « Bruno, je ne veux voir personne, et surtout pas vous ». Donc,
et c'était Bruno, son propre théâtre, M. Cocatrix.
C'était son propre théâtre. Mais il était tout penaud, et il a très bien compris. Et ils sont devenus très amis.
À l'émission Interactualité.
Barbara, vous êtes avec nous car demain soir, c'est une grande première pour vous, première à l'Olympia. Ce n'est pas la première fois que vous allez à l'Olympia.
C'est la première fois vraiment en passage. Enfin, je suis passée une fois l'année dernière.
Et en raison du succès, vous revenez.
Je ne sais pas si c'est en raison du succès, mais enfin, disons que je trouvais la scène extrêmement, tout à fait extraordinaire et j'ai eu envie d'y revenir, d'y aller.
Tout à l'heure, Barbara, en écoutant votre chanson, vous avez annoncé quelques petites onomatopées. Gna 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 gna. Votre voix ne vous plaît pas?
Non, pas du tout.
Quand vous l'écoutez?
Non, pas, j'aime pas du tout.
Vous n'aimez pas vous entendre?
Non, je trouve ça fait, on dirait un chat que pris dans une porte.
On n'a pas tellement l'impression que vous aimez parler de vous.
Non. Parce que
vous avez même l'air réticente, on se dit Barbara doit aimer se pencher sur elle-même, et puis pas du tout. Alors, lorsqu'on vous rencontre, vous êtes quelqu'un qui a plutôt l'air de papillonner sur d'autres sujets que sur vous-même.
Bah, c'est-à-dire que si, pendant une heure, ou je sais pas combien de temps c'est dur cette histoire, une heure et demie, je parle de moi, je trouve que c'est déjà suffisamment indécent, sans encore raconter, gna 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 gna. Alors si, je trouve que je parle beaucoup, beaucoup de moi, beaucoup trop de moi dans mes chansons.
La costumière Mine Vergès se souvient.
Je vais vous raconter une histoire drôle, c'est parce que j'y pense. Quand elle a fait l'Olympia 1 d'Olympia, j'avais un petit appartement au-dessus du salon, et elle habitait là, elle habitait chez moi pendant tout le temps du spectacle. Et donc Barbara, il y a des moments où elle était très triste, elle voulait pas parler, elle était chieuse, et d'autres moments elle était drôle que c'est pas possible. Et un jour elle descend, elle arrive à la maison, elle voulait des bouts de dentelle, voulait travailler, faire de la couture, enfin bon bref. Et je lui dis, non, mais là, on attend la Comédie Française qui arrive. La Comédie Française arrive. Je dis, oui, on fait un spectacle aux Français. Les comédiens arrivent. Bon, attends, tu bouges pas. Elle s'est fait un petit tablier blanc. Elle s'est mis un truc blanc en dentelle dans la tête. Et elle a dit, à partir de maintenant, je suis la bonne. C'est moi qui ouvre, c'est moi qui sers le thé. Elle l'a fait. Et tous les comédiens me disaient, mais c'est Barbara. Mais je ne suis pas Barbara, je suis la bonne de Madame Vergès. Je suis la bonne. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un café? Un thé? Et quand il dit, mais c'est Barbara? Non, je ne suis pas Barbara. Voilà. Donc, vous dire à quel point elle était drôle. Ça dépendait des moments.
Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. Platypa qui reluque sa servante, mais qu'il la reluque en amateur. Il murmure, eh ben dites donc ma fille, entre nous vous êtes fort gentille, et votre personne crée nom d'un chien, au naturel doit être très bien. Ah oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe, à la petite bonne lui il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flattée. Dans ta chambre, je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Oh, monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Paraît que je possède un bon lit, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous, elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il s'écria tout folichon, je n'ai jamais vu de si beau nid. Oh, monsieur, va répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Je comprends que vous soyez ébahie, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand de la galette et qu'il n'est pas vilain garçon, elle fit pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure, puis il s'écria, je t'assure, je trouve exquise, c'est merveilleux, et que ma femme, tu t'y prends bien mieux. Oh monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, que je m'y prends mieux que madame Pardy, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit.
La série du spectacle à l'Olympia est un véritable succès. Certains parlent même de consécration. Pourtant, le soir de la dernière, Barbara fait ses adieux. Le public et la presse sont interloqués. Le lendemain, à l'émission Interactualité, c'est une Barbara complètement survoltée qui tente de réajuster le tir.
Et maintenant, nous avons en ligne par téléphone Barbara. Barbara, en effet, hier soir, nous apprenions que vous alliez vous retirer du tour de chant. Est-ce que vous confirmez cette nouvelle?
Je confirme. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Oui, enfin, j'ai dit que j'abandonnais le tour de chant, mais non pas que j'abandonnais le spectacle. C'est-à-dire que j'abandonne, si vous voulez, cette idée horrible de revenir tout le temps, tous les ans, refaire un tour de chant comme une espèce de fonctionnariat du métier. Ce métier est une aventure, ce métier est un métier de nomade. J'ai tout à coup envie de partir vers autre chose, je m'en vais. Je n'abandonne pas la scène, je n'abandonne rien. Je continue un chemin que j'ai toujours fait. Je sais qu'il y avait des gens qui attendaient que je fasse l'Olympia, parce que pour eux c'était la consécration. Pour moi, d'ailleurs, ça n'est pas une consécration, mais c'était merveilleux de le faire.
En somme, c'est un adieu à la chanson, mais pas un adieu à la scène.
Si vous voulez, c'est-à-dire que je ne peux pas revenir tous les ans faire, et maintenant voici, parce que pour moi ça ne veut rien dire, je trouve que c'est presque une malhonnêteté. Je ne peux pas réécrire, je n'ai pas envie d'écrire maintenant, parce que si je réécrivais, je réécrirais les mêmes choses, car je pense les mêmes choses. Donc je réécrirais la solitude, je réécrirais, si je devais réécrire une chanson pour le public, je réécrirais ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, parce que c'est vrai que c'est eux, parce que c'est eux qui m'ont fait, parce que c'est toute ma vie, que j'ai pas le droit de tricher avec ça, et je pars parce que tout à coup, J'ai envie d'aller. Je suis très heureuse qu'on m'ait appelé parce que je tiens beaucoup à ce que les choses soient précises envers les gens que j'aime.
Et voilà qui rassurera vos amateurs.
Sur France Inter, c'était Barbara en noir et blanc.
À la recherche, Marie-Pierre Duval.
À la technique, Serge Brideau.
Cette émission est présentée par Anne Dorval
et signée Francis Legault.